Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont les parties qui manquent, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine Okapi Service. En République démocratique du Congo, le niveau de l'enseignement est au rabais depuis quelques années, affirment les experts. Les enseignants font figure des parents pauvres. La rigueur et la discipline ont diminué dans plusieurs écoles. Les antivaleurs ont élu domicile dans le système éducatif congolais financé essentiellement par les parents d'élèves. Quels sont les préalables pour avoir un système éducatif performant? Pour en parler, nous recevons à présent le professeur Yaoundé Maïzamir. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en éducation. Alors, quelles sont les causes d'abord de cette baisse du niveau de l'enseignement dans notre pays?
Merci beaucoup pour la question de me poser. Et raison à vous commencer par me poser la question sur les causes, parce que lorsque vous avez commencé votre émission, vous avez parlé de la relève, comment relever le niveau de notre enseignement. Mmh. En fait, moi je devrais dire que nous, on n'a pas relevé le niveau de notre enseignement, puisque notre enseignement n'est pas à sa place par rapport aux attentes. Il faut commencer d'abord par être à la place, et ensuite, vous remplissez les conditions pour qu'on parle en termes de relever. Et la situation de notre enseignement est dramatique. Malheureusement, comme vous savez, dans notre pays, nous banalisons ce qui est dramatique, mais nous dramatisons ce qui est banal. Mais lorsque nous devons faire le diagnostic de notre enseignement, il faut nécessairement que ce diagnostic ne soit pas ignoré, mm-hmm. ne soit pas sous-estimé, que ce diagnostic soit vu avec nos yeux et que nous puissions accepter le diagnostic en vue de voir dans quelle mesure nous devons entreprendre des actions positives. Voyez ce qui se passe. L'enseignement, en fait, il faut considérer les trois pôles de relation. Mm-hmm. Il y a d'abord l'enseignant en relation avec la matière qu'il doit enseigner. Ça, ce qu'on appelle, c'est une relation didactique. Et puis, il y a la relation entre l'enseigné, l'élève et la matière. On appelle cette relation une relation d'apprentissage. Et là, il y a encore une autre relation qui est entre enseignant et enseigné. On appelle ça relation d'enseignement. Lorsqu'il se pose des problèmes au niveau de l'enseignement, c'est que les problèmes se posent à tous les trois niveaux, à tous les trois pôles. Mais là, il faut maintenant les expliquer davantage.
Alors, quelles sont les vraies causes?
Voilà, là, je suis en train d'expliquer. Oui. Maintenant, j'ai pris la relation qu'il y a entre enseignant et enseigné et la matière. En fait, l'enseignant, il doit nécessairement maîtriser la matière. Maîtriser cette matière, connaître la matière pour transmettre, permettre à ce que l'enfant puisse acquérir le savoir, et passer à ce que ce savoir puisse lui permettre de transformer sa société. Mais malheureusement, nous sommes dans notre pays en face des enseignants qui ne sont pas formés à être enseignants. Prenons d'abord l'école primaire.
L'école primaire, il y a un problème de formation.
Des enseignants. Donc notre pays,
ils ne sont pas qualifiés.
Notre pays doit se préoccuper à former les enseignants. Et surtout, au niveau primaire, former les enseignants de l'école primaire. Autrefois, nous les formions. Maintenant, nous ne formons pas les enseignants de l'école primaire. Il y a des gens qui disent, écoutez, mais nous avons la section pédagogique. La section pédagogique avec option pédagogie générale. Analysez le programme de formation dans cette section d'études. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas formation d'enseignants. Parce qu'on ne peut pas former les enseignants pendant une heure de pratique professionnelle, pendant une semaine de pratique professionnelle, deux semaines de pratique professionnelle. Ça ne se fait pas. Ça se fait dans aucun pays au monde ici.
Alors, ça, c'est la première cause.
La première, le premier élément,
c'est-à-dire sous-qualification des enseignants.
Sous-qualification des enseignants. Mmh. Et il y a encore un autre élément, l'affectation des enseignants. On doit confier à un enseignant le cours qui correspond à sa formation. Malheureusement, lorsque vous êtes dans nos écoles, vous allez constater qu'à un enseignant, un géographe, à ce moment on devait y confier le cours de géographie au niveau secondaire, vous allez le voir enseigner le cours de chimie. À un chimiste, au lieu qu'on puisse y confier le cours de chimie, vous allez le voir en train d'enseigner le cours de géographie. En fait, l'affectation des enseignants, le recrutement des enseignants, soulève un problème sérieux dans la maîtrise de la connaissance, dans la relation entre l'enseignant et la matière.
Oui.
Et j'ai parlé du niveau primaire, j'ai parlé du niveau secondaire. Oui. Mais à l'université, c'est encore pire.
vous pouvez comprendre des cahiers universitaires, l'enseignement supérieur, compris et recruter des enseignants qui n'ont jamais obtenu 60% dans leur thèses. Et pourtant, le Bad Mokom, le Dibien, ne peut être retenu comme assistant que celui qui a déjà au minimum, a déjà réalisé au minimum une distinction. Mais aller dans l'enseignement supérieur universitaire, dans nos établissements d'enseignement supérieur universitaire,
le clientélisme.
En fait, c'est-à-dire que le Congolais a pris la décision de détruire son pays. C'est toute une décision qui vient de l'intérieur. Le Congolais se dispose à détruire son pays. Du point de vue de la relation enseignant et matière.
Mm-hmm.
Mais il y a encore un autre point de vue, c'est la relation qu'il y a entre l'enseignant, l'apprenant, l'élève et la matière. Mais nous devons nous poser des questions, maîtriser ce que le Congolais, l'élève congolais est. Nous sommes dans une situation d'un élève traumatisé. L'élève traumatisé, l'élève qui doit se retourner, il vient d'abord à l'école. L'école, ce n'est pas un milieu qui lui permet d'être encore là et d'apprendre. Et l'UNICEF actuellement est en train de parler de l'école amie des enfants. C'est-à-dire les conditions doivent être réunies pour que l'enfant qui vient à l'école puisse trouver que, puisse y vivre de la joie. Alors, mais malheureusement, au niveau de l'école, il se pose un problème. Et l'enfant qui est traumatisé, qui rentre, à cause de tout ce que nous vivons dans notre société, et qui rentre dans sa maison, la maison l'a promiscuité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a aucune condition favorable lui permettant de se livrer à l'activité intellectuelle. Il y a la faim. Et quand il arrive à l'école, parce qu'il est affamé, il a beaucoup plus en lui que la possibilité de somnoler. Et quand il somnole, vous ne pouvez rien attendre de cet enfant, parce qu'il est déjà affamé.
Il n'a pas mangé, il n'a pas pris son petit déjeuner à la maison.
Et parce que l'environnement au niveau de sa famille, il y a des bruits. Et il ne peut pas se livrer à une activité intellectuelle. Déjà, l'enfant, lorsqu'on ne se préoccupe pas de lui, de l'apprenant, on ne se préoccupe pas de lui, ça pose un sérieux problème. Et l'enseignant, enfin, qui est traumatisé, il faut un environnement scolaire autre. Il faut un programme de formation qui doit tenir compte de cet enfant. Mais on est en train d'enseigner dans notre pays sans tenir compte de ce que l'enfant congolais est. On est en train de considérer l'enfant congolais comme s'il était un enfant sans âme, un enfant sans hérédité, un enfant sans histoire. Mais il y a toute une histoire. On doit tenir compte de l'enfant, de celui qui va à l'école. Malheureusement, la relation entre enfant et la matière à lui enseigner est brisée.
Mais certains attendent que si le niveau de l'enseignement a baissé aujourd'hui, c'est parce que, quelque part, l'État a démissionné et ce sont les parents qui prennent en charge les enseignants.
Mais en fait, lorsqu'on parle de la démission de l'État, mais si l'État ne s'inquiète pas de ce qu'on dit de lui qu'il a démissionné, c'est que la chose qui devait l'inquiéter, si ça ne vous inquiète pas, c'est que vous êtes inquiétant. Donc notre État est inquiétant parce qu'on est en train de dire qu'il a démissionné. Il est irresponsable. Et cette manière de qualifier l'état d'irresponsabilité devait inquiéter. Mais le fait ne s'inquiète pas. Et lorsqu'on ne s'inquiète pas de ce qui inquiète, c'est que vous êtes inquiétant. Il faut nécessairement une remise en question. Moi, ce que je dois prodiguer comme conseil au Premier ministre, c'est faire en sorte que nos ministres ne s'habillent pas en veste. Parce qu'ils s'habillent en veste, c'est la bureaucratie. Il faut nécessairement qu'on se rende compte qu'il y a du travail à faire dans ce pays. Il faut nécessairement.
Oui, professeur Yaouzi, nous parlons de budget consacré. Aujourd'hui, certains pensent que le budget consacré à l'éducation ne représente pratiquement rien et ce sont les parents qui prennent en charge les enseignants et comme ils ne sont pas payés, tout ça ils font aujourd'hui à figure des parents pauvres. Pensez-vous que cela est un élément capital ou le tout premier élément pour élever aujourd'hui notre système éducatif?
Mais quand il y a la responsabilité du financement de l'enseignement aux parents, mais c'est très grave. C'est ça ce que j'appelle de l'irresponsabilité, c'est ce que j'appelle la pyramide renversée. Ce sont des parents qui supportent le poids de l'État, alors que c'est l'État qui devait supporter le poids des parents. Et dans le contexte où c'est les parents qui financent, il y a des conséquences négatives. Voilà. Le parent ne peut jamais accepter que son enfant puisse échouer parce que lui a investi beaucoup d'argent.
Il fera tout pour que l'enfant
passe de classe. Mais quel que soit le niveau de l'enfant, il va nécessairement passer de classe.
Voilà. Un auditeur en ligne, Bertin, il nous appelle de Bukavu. Bonjour Bertin.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à notre invité. Moi je suis Bertin Mungombe, je vous appelle depuis Bukavu, comme vous venez de le dire.
Oui.
Et je suis content que vous parliez de l'enseignement parce que je suis en fait licencié en sciences commerciales administratives de l'ISP de Bukavu.
Mm-hmm.
J'ai deux petites préoccupations à notre invité. La première préoccupation, qu'est-ce qu'il pense des relations qui existent aujourd'hui entre enseignants et élèves? Si la pauvreté de l'enseignant est obligé à être ami de l'élève ou le parent est riche. Et là, il y a un problème. La deuxième question, c'est en rapport avec un enseignant qui travaille dans 3-4 écoles. Est-ce que cet enseignant-là a le temps de faire la recherche et enrichir la matière où l'enseignant utilise les notes qu'il a utilisées depuis 10 ans, peut-être les notes que lui aussi a appris des enseignants et ces mêmes notes qu'il est en train d'utiliser. Et pour terminer, c'est la question de la corruption aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le système qu'on appelle les points sexuellement transmissibles, mais aussi, ici, nous utilisons la poche, les points pochement transmissibles, c'est-à-dire les garçons utilisent l'argent pour avoir des points. Les filles utilisent leur corps malheureusement pour avoir les comptes. Est-ce qu'avec cette situation, notre pays peut évoluer? Mais je proposerai peut-être le travail, qui est là, c'est le travail du ministère de la nouvelle citoyenneté. Peut-être
responsabilité. Merci Bertin de Bukavu. Gabriel, vous êtes à Kalima. Bonjour.
Bonjour, M. Jésus Daniel Kachama, et bonjour aussi à notre invité. Bon, j'ai bien suivi notre invité, mais je ne suis pas pour de tout ce qu'il dit. Moi, j'ai des préoccupations, mes préoccupations se passent sur un deux volets. La première, pour que le niveau des enseignements puisse au moins monter, il faut que le gouvernement prenne en charge les enseignants et leur bien payer pour qu'ils se sentent vraiment qu'ils sont au travail. Ça, c'est un. Comment un enseignant va très bien donner son cours pendant que son ventre est enfermé? Hein, monsieur Joël? Même les Français disent que le ventre enfermé n'a pas d'oreille.
Oui.
Au lieu de lui. On lui paye chaque fin du mois 45 000 fois. Il a sa femme ainsi que ses enfants, tous sont scolarisés. Comment ce montant-là, c'est peu pour lui? Au lieu de préparer son cours, il part au champ pour cultiver, il vient là tardivement pour pêcher chez les moines, pour que les enfants puissent manger. Mais quand le gouvernement lui prend en charge, lui donne les argent correctement, il va aussi fournir beaucoup d'efforts pour donner aussi son correctement.
Merci.
Ce que vous avez, je vous remercie.
Merci Gabriel de Kalima, professeur Gabriel.
Merci, je commence par répondre à Gabriel de Kalima. Vous savez, la situation dans laquelle nous nous trouvons dans notre pays, lorsque vous êtes en train d'évoquer cet aspect des choses, c'est dire que en fait, nous sommes dans une situation où l'État n'arrive pas à comprendre que il faut améliorer la condition de l'enseignant. Mais lorsqu'on parle d'améliorer la condition de l'enseignant, il faut pas seulement mettre l'accent sur le salaire. On peut bien payer l'enseignant, mais si cet enseignant n'est pas valorisé, n'est pas considéré, c'est vraiment difficile qu'il puisse jouer aussi son rôle. Il faut nécessairement qu'on considère qu'on est en face d'un être humain. Un être humain qui doit être recyclé, un être humain qui doit suivre des formations, des perfectionnements, de façon à ce qu'il puisse s'améliorer dans son activité.
Donc, si je comprends bien, pour améliorer, pour élever le niveau de l'enseignement, il faut d'abord valoriser la fonction.
Valoriser la fonction enseignante et valoriser l'enseignant. Valoriser l'enseignant. Et lorsqu'on parle de valoriser l'enseignant, ce n'est pas seulement les salaires à mettre à sa disposition. Il faut nécessairement qu'il se rende compte qu'il a une place au sein de la société. Malheureusement, cette société qui rejette l'enseignant, il faut aussi mais améliorer l'image de l'enseignant au sein de la société. Et la société puisse accepter que l'enseignant, c'est lui qui est l'acteur, l'agent du développement de notre société. C'est lui qui doit influencer le changement sur un enfant, sur un apprenant. Mais si la société rejette l'enseignant, ça pose un problème. Et maintenant, lorsque nous devons considérer ce que Bertrand de Bukavu a dit, c'est ce que j'ai relevé tout au début là, la relation entre enseignant et enseigné, c'est la relation d'enseignement. Mais cette relation-là, est-ce qu'elle m'a brisé? Cette relation-là est vraiment, est-ce qu'elle m'a bafoué? Imaginez un enseignant, il voit un enfant en train de consommer du coca, la bouteille de coca, et l'enfant est arrivé à consommer une grande partie, et l'enseignant dit à cet enfant, petit tiens la dinoine. C'est-à-dire que l'enfant constate que son enseignant n'a pas mangé. Oui. Et lorsque l'enseignant ne sert plus de modèle, qu'est-ce que l'enfant peut encore attendre de cet enseignant?
Bertin nous a parlé d'un enseignant qui est devenu ami d'un élève dont les parents sont riches.
C'est ce contexte-là de la familiarité. Une familiarité qui avise, qui amène à la loi du moindre effort. Il faut nécessairement que notre État, nous sommes en train de parler de l'État. L'État doit comprendre que si on du développement de la société. Si réellement nous voulons développer notre société, on est en train de parler de la révolution de la modernité. Dans le contexte où on peut l'expliquer politique ou quoi, mais il faut qu'on comprenne que il faut d'abord l'école. L'école, on doit réhabiliter l'école congolaise. Réhabiliter l'école congolaise. Du point de vue du programme de formation. Le programme de formation, imaginez, monsieur journaliste, je suis dans un gouvernement provincial. Un ministre est en train de dire à ses conseillers, écoutez, tel que vous êtes là, ma diplôme comme Nabino Bobomba Yango, Mayele Nabino Bobomba Yango, a ezali politique. Mais il faut nécessairement les politologues du pays pour se redéfinir la politique, les concepts politiques dans votre pays. Parce que je ne peux pas imaginer qu'on puisse œuvrer pour le développement du pays sans apport de l'intelligence. Qu'on dise à quelqu'un, Bomba Mayele Nayo. Donc c'est compliqué. Il faut que ça énerve. Il faut que ça révolte. Quand je suis en train de parler, moi je suis spécialiste dans le domaine de l'éducation. Quand je suis en train de parler, ce n'est pas pour le plaisir de parler. Je n'ai pas le temps de venir. Interpeller les gens, à changer.
Bien sûr, vous avez dit la première chose pour élever le, pour avoir un système éducatif performant, il faut valoriser l'enseignant, il faut avoir un bon programme de formation, c'est ça.
Oui, valoriser l'enseignant, c'est-à-dire on doit d'abord s'occuper à former l'enseignant et commencer par l'enseignant de l'école primaire. Ailleurs, ce que maintenant nous sommes en train d'envisager au niveau de l'université pédagogique nationale, c'est qu'il faut commencer à former l'enseignant de l'école primaire au niveau de l'université. Hein? Former l'enseignant, l'éducatif de la maternelle au niveau de l'université. Et c'est, on ne peut pas confier la responsabilité de la formation d'un enfant de l'école primaire à un adolescent qui connaît ce qu'on appelle la crise d'originalité juvénile. Il ne peut pas s'occuper de la formation d'un enfant. Il faut un adulte qui a atteint un certain niveau, qui doit comprendre que, qui est en face de lui. C'est qu'elle est du point de vue de ses caractéristiques génétiques pour savoir comment on doit se comporter à son égard.
Bien. Nous avons Aline Gilbert de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, bonjour journaliste.
On vous écoute, Gilbert.
Bon, je salue d'abord, c'est mon professeur qui est en train d'intervenir là-bas.
Ok.
Donc, je voulais témoigner une chose. Voilà ce qui s'est passé comme délibération parce que je suis un professeur. Alors, tout élève qui a payé tous les frais, il a obtenu 20%, 30%, 50% par les classes. Alors, moi, je pense que l'État qui est en train de payer les systèmes
d'argent. Là, c'est dans une école privée. Ou une école publique.
Une école de l'État.
Oui.
Donc, une élève qui a payé le prêt, il a obtenu 20, 30, 50 parts de classe. Enfin, c'est vraiment un cas normal. Hein? Donc, ce n'est pas les enseignants qui tirent l'enseignement, c'est l'État qui tire l'enseignement. C'est ça que vous
voulez dire. Merci, Gilbert. Professeur Yaoui,
je voudrais réagir sur cet aspect des choses. En fait, autrefois, nous étions dans un enseignement de type presque sélectionné, c'est-à-dire on sélectionnait les meilleurs qui devaient passer d'une classe à une autre. Mais on a quitté la sélection parce qu'il faut démocratiser l'enseignement. C'est pour cela qu'on est arrivé avec le système d'orientation. Parce que même l'enfant qui a obtenu 20%, on ne peut pas dire de lui qu'il est idiot. Parce que vous allez constater que lui qui a obtenu 20%, mais dans un cours tel que le dessin, il a obtenu 10 sur 10. Mieux que ceux qui ont obtenu 70%. En fait, lui, il a obtenu 10 sur 10 en dessin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on pourrait bien exploiter dans le domaine ayant pris au dessin. Mais malheureusement, on ne peut pas aussi le rejeter. Mais c'est ça, c'était la sensibilisation que nous sommes en train de dire. Que l'État puisse revenir encore.
Le problème, c'est que quand, même si l'enfant a 20%, mais parce que les parents ont payé la totalité du prêt, alors à ce moment-là, on ferme les yeux sur
certaines. Non, je corrige. Ici, on peut corriger l'aspect.
Oui.
C'est-à-dire que l'enfant qui a obtenu 20%, on considère la moitié, c'est 50%. On dit que cet enfant ne peut pas, il doit reprendre l'année. Or là, moi, je dis que c'est une erreur. Parce que l'enfant qui a obtenu 20%, il ne faut pas que tous les péchés du monde tombent sur lui. C'est un enfant, par exemple, en dessin, il a obtenu 10 sur 10. Il est bon en dessin. Et que cet enfant doit être encouragé de façon à ce qu'il aille dans la filière où on doit mettre beaucoup plus en exergue les dessins. C'est-à-dire, on n'a pas à diaboliser un enfant. Mais ce comportement de vouloir dire, écoutez, cet enfant qui a obtenu 20% par rapport à ses amis. Par le fait qu'on compare la moyenne brute de 50%, il doit nécessairement, si lui doit être tombé tous les péchés du monde, ça se dit, ça ne marche pas. Donc, il faut redéfinir les choses aussi.
Voilà.
Et il y a aussi.
Avant de continuer, Précy est en ligne depuis Goma. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Précy.
Ok, moi, je voulais juste poser une question à notre expert. Vous savez, nous avons un problème. La question est très celle-ci. Est-ce que tu peux me dire un pays étranger, un pays développé parmi les pays les plus puissants, les pays qui s'est développé avec une langue d'ailleurs?
Oui, allez-y.
Oui, j'ai compris ce que je viens de dire. On ne peut jamais se développer dans un monde qui tirait d'autrui. On ne peut jamais se développer dans un monde qui tirait d'autrui. L'enseignement, surtout au niveau de l'école primaire, doit se réaliser dans nos langues à nos langues nationales. En fait, la langue maternelle de l'enfant, c'est cette langue qui doit lui permettre d'acquérir les savoirs scientifiques. Si nous n'arrivons pas, si nous arrivons à considérer le français comme étant une qualité, le fait de parler français, c'est de l'intelligence, nous sommes en train de détruire. En fait, c'est que moi, je vous
dis. Vous voulez dire qu'au niveau du primaire, de l'école primaire, on doit donner les enseignements en langue locale.
En fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Nous voulons quoi? Nous voulons que l'enfant puisse acquérir les savoirs scientifiques, puisse maîtriser les savoirs scientifiques, puisse être capable d'inventer. Et si nous faisons cet objectif, donc l'enseignement au niveau de l'école primaire doit se réaliser dans la langue maternelle. La langue maîtrisée par l'enfant. C'est alors, même les livres qu'on doit mettre à sa disposition, ça doit être des livres écrits en langue maternelle. C'est ça. Donc, enseigner en langue maternelle, oui, mais il faut aussi que l'outil de travail pour l'élève puisse suivre aussi. Il faut qu'on puisse écrire en lingala, en kiluba, en kikongo et en swahili, de façon à accompagner cet enfant dans la maîtrise du savoir scientifique. Mais si l'on veut que l'enfant puisse connaître le français ou l'anglais, on doit créer des centres de formation. Mais peut-être aussi, on peut dire, écoutez, mollo, on peut prendre le premier degré du primaire, le deuxième degré du primaire, au niveau du terminal, on essaie un peu d'injecter un peu le français. Et moi, à la place du français, j'aurais voulu que ce soit l'anglais, puisque le français encore, ce n'est beaucoup plus, c'est de plus en plus, ce n'est plus parlé vraiment à travers le monde dans beaucoup de pays.
Comment relever le niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo, professeur Yoridi Maïzam, expert en éducation et notre invité. Vous avez des questions, des préoccupations, composez les 081 890 63 94. Bienvenue, nous appelle de Lubumbashi, bonjour. Bienvenue, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jéli.
On vous écoute.
En fait, ce n'est pas une question, mais c'est une préoccupation parce que ça me révolte un peu, parce que je suis du domaine.
Oui.
Alors, votre sujet, ça m'a beaucoup intéressé. Bon, oui. Je voulais savoir toutes les théories que les professeurs sont donnés là-bas, c'est bien. Mais il faudrait vraiment insister que le staff congolais puisse réellement prendre la responsabilité d'être le premier responsable de l'éducation dans tout pays au monde. Le premier responsable de l'éducation, c'est l'État d'abord. Alors, tout ce que nous pouvons présenter comme théorie, c'est très bien, mais aussi longtemps que l'État congolais, le dirigeant du Congo, n'a jamais pris conscience que le nœud, ou bien même le moteur de développement de tout pays, c'est l'éducation. Eh bien, nous présenterons les théories comme nous le voulons, mais ça ne pourra pas changer le niveau de l'enseignement dans ce pays. Alors, si seulement cette émission fasse, on a quelque chose de penser, et qu'il y a vraiment des dirigeants du pays qui suivent ça, et que nous avons les gens qui comprennent que tout développement de toute nation au monde, l'éducation d'abord, lorsqu'on sait bien placer l'enseignant à sa place, la relation médiatique. Va venir de soi. La relation apprenant et enseignant va venir de soi lorsque l'enseignant est vraiment mis à sa place. Alors, vraiment, ma préoccupation, c'est que toutes les deux, c'est théorie que l'université a quand même c'est bien, mais s'il peut aussi insister comme il est du domaine comme nous, c'est vraiment l'État congolais. Prenez ses responsabilités de placer l'enseignant à sa place.
Merci, bienvenue.
Je pense que tout sera. Problème, du coup.
Merci, bienvenue. Benjamin, elle nous appelle depuis Siro, dans la province orientale. Bonjour. Dommage, Benjamin n'est plus en ligne. Voilà, il a dit tout à l'heure que l'éducation est le moteur de l'éducation. Le professeur Yahoui dit en quoi l'éducation est le moteur, l'élément principal du développement.
Oui, il n'y a pas le développement sans éducation. Si je dois revenir à ce que bienvenue de Soledad et bienvenue de Lumbashi, je vous salue. Et c'est très bien, c'est tout ce que je suis en train de relever, monsieur bienvenue. Vous savez, notre État s'est fixé quel objectif? Notre État, l'État congolais s'est fixé comme objectif que les gens l'identifient comme irresponsable. Mais à partir du moment où on l'a déjà identifié comme irresponsable, il est conscient. Voyez, alors maintenant il faut que nous arrivions, je ne sais pas quel est le type de dommages que nous devons maintenant amorcer. Parce que c'est comme si le Congolais est formaté. Il faut nécessairement, il faut une réprogrammation pour que ce qui révolte puisse révolter. Puisque notre enseignement n'est même plus une poubelle. Vous savez, dans la poubelle, on trie ce qui est les produits qu'on peut traiter et les produits qu'on ne peut pas traiter.
Dans une poubelle, c'est devenu quoi?
Ce n'est même pas les trous de la toilette. Parce que dans les trous de la toilette, pour le moment, on est en train de faire sortir maintenant des gaz utiles pour la société.
C'est
vraiment l'enfer. Dans l'enfer, il y a de la méchanceté. Il y a des méchants et de la méchanceté.
Alors, vraiment l'enfer. Vous voulez dire que pour relever le niveau de l'enseignement, c'est une affaire de volonté politique aussi?
C'est une affaire de la connaissance, de la vision. De là où on veut mener le pays.
Voilà, Ernest nous appelle de Matadi. Bonjour. Ernest, vous êtes à Matadi, bonjour.
Bonjour, je vous écoute.
Oui, quelle est votre question?
Bon, la participation, je suis tout invité de faire des rapports, je suis moi-même enseignant, mais je me pose une question au niveau de l'enseignement primaire, parce que là, la situation fondamentale, bien que les enseignants au niveau secondaire, et nous, au niveau secondaire, plus en bonne. Est-ce qu'on ne peut pas revoir les programmes nationaux de formation de la pédagogie pour que nous conformions les détails, pardon, les jeunes lois qui seront vraiment à mesure d'encadrer à l'école primaire, parce qu'aussi à l'école publique, il y a un air de super courte, il y a plus de grands pères et grands maîtres français qui sont déjà fatigués, qui attendent les retraites. Est-ce qu'ils sont actuellement concentrés sur les formes de la système qui peuvent arriver à maîtriser tout ça? À l'école, vous pouvez faire une chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de répondre les programmes nationaux de formation des pédagogues pour que ce soit le premier? C'est la situation de la classe qui est abandonnée dans la suite de la série.
Merci Ernest. Oui. Merci Ernest de Matadi. Ouais, dommage, on n'arrivait pas bien à suivre ce que j'étais en train de dire. Alors, professeur Yawidi, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la proposition de.
Je reviens encore, mais c'est Ernest aussi a bien appréhendé les choses, c'est-à-dire l'école primaire.
Il faut revoir le programme national.
Non, le programme national, d'abord, doit tenir compte des réalités sociales. Le programme qu'on doit élaborer pour l'enfant congolais doit tenir compte de l'enfant congolais. Du point de vue de ce qu'il est, l'enfant congolais tenir compte de son histoire, tenir compte de ce qu'il vit, tenir compte de son hérédité, tenir compte de l'environnement pollué dans lequel il est tenté d'évoluer. Il faut nécessairement former un individu qui doit prendre en charge sa société. Il ne faut pas qu'un individu soit... Imaginez, mon frère, nous, quand on évoluait, on est tout autour du feu avec le grand-père ou avec le père. Il est en train de réciter. Donc, il présente des récits aux enfants. Les enfants ont la facilité de pouvoir maîtriser les récits faits par le père. Mais le même, le texte d'histoire que l'enseignant utilise au niveau de l'école, les enfants sont incapables de pouvoir... Le pouvoir,
même dans certains de Bukavu, certains enseignants qui ont des notes qui datent de très longtemps, qui n'ont jamais été mises à jour, et ça pose problème aussi.
Nous sommes là au niveau de la démotivation, parce que la démotivation amène tous les comportements qu'on est en train d'évoquer.
Il n'a pas le temps de faire des recherches, de lire.
Quand quelqu'un est démotivé, vous n'avez rien à attendre de lui. Mais lorsqu'on a poursuivi l'objectif de démotiver celui qui doit faire un travail, il ne faut rien attendre de lui. C'est tout ça, je vous dis que c'est toute la philosophie imprimée dans l'autre société par l'État.
Jean-Michel nous appelle de Kananga, bonjour.
Oui.
On vous écoute, Jean-Michel, quelle est votre question?
Je remercie la radio Fatih, ainsi que l'enseignant, le professeur intervenant du jour. Je disais deux autres préoccupations. La première, c'est que celle des enseignants, des professeurs des humanités, qui ne sont pas du domaine pédagogique. Vous allez voir quelqu'un qui est licencié ou gratuit. En sciences politiques et en quoi, et qui fait des études ou enseignant dans une école ou bien de la pédagogie. Je parle effectivement de mon district qui sont pour vous. La deuxième préoccupation, vous allez voir certains enseignants qui sont du domaine pédagogique et qui enseignent bien, mais qui ne sont pas payés par l'État. On les trouve sur les listes là, c'est le NEP, nous ne savons pas jusqu'à quand ces gens-là sont payés.
Merci Jean-Michel, professeur Yaoui.
Je l'ai aussi dit, c'est-à-dire qu'on a confié, dans la majorité de nos écoles, les enseignants, on a confié des cours aux enseignants et les cours qui correspondent à leur niveau d'incompétence. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ceux qui sortaient des instituts supérieurs pédagogiques, les universités pédagogiques nationales, puissent nécessairement être dans nos écoles. Mais malheureusement, lorsque vous suivez nos écoles, vous allez vous rendre compte, c'est beaucoup plus ceux qui ont terminé l'ISA, ceux qui ont terminé l'ISC, ceux qui ont fait autre chose qui sont dans mes écoles. Et ils n'ont aucune méthodologie d'enseignement. Et comment ils peuvent rendre l'activité pédagogique.
Alors, pour terminer, en résumé, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les points importants sur lesquels on doit se pencher pour élever le niveau de l'enseignement et avoir un système éducatif performant?
Il y a beaucoup de choses à faire, mais pour le moment, ce que moi je propose, on ferme l'école. On ferme d'abord l'école. On laisse d'abord cette histoire d'école.
On ferme toutes les écoles.
On ferme tout. Et puis maintenant, on doit réfléchir. Et c'est les gens qui doivent réfléchir, sont déjà capables de réfléchir.
Donc, les gens qui vont à l'école.
Oui, qu'on ferme l'école. Parce que l'école ne produit pas ce qu'il faut produire pour la société. Il faut qu'on ferme et on appelle les gens qui réfléchissent sur l'enseignement. Les gens qui réfléchissent sur l'enseignement pour qu'ils réfléchissent sur cet enseignement. Et voir dans quelle mesure nous devons redéfinir notre école. J'aurais voulu ceux qui sont peut-être à l'université qu'on les envoie au service militaire pendant une année ou pendant deux ans pour que, en ce moment-là, pendant les deux ans, qu'on arrive à réfléchir sur quel type d'école nous devons avoir dans notre société.
Oui, on va terminer rapidement. Il y a deux questions qui viennent de tomber. La base, on l'acquiert à l'école primaire. Le nombre des élèves doit être à combien, surtout en première année primaire?
Le nombre d'élèves à l'école primaire, en fait, c'est de tenir compte de ce que l'enseignant doit être capable d'identifier chaque enfant. Lorsque nous avons 30 élèves dans une classe,
voilà, il y a dans certaines écoles, on retrouve 50 élèves en première année.
Mais c'est ce qui fait que l'enseignant ne peut pas s'occuper de tous les enfants. Et l'enseignant lui-même ne connaît même pas le nom de tous les élèves. Il commence à appeler les élèves là, yo, petit, petit. Vous voyez un enseignant qui appelle son enfant, son élève là, petit. Mais qu'est-ce que l'enseignant, qu'est-ce que l'apprenant doit encore apprendre de cet enseignant? Parce qu'il sait qu'on ne connaît pas.
Voilà, l'enseignant traumatise les élèves.
Voilà l'environnement de maltraitance.
Oui. D'après vous, la solution, il faut fermer toutes les écoles et réfléchir. Hein.
Maintenant, la solution la plus appropriée, c'est fermer l'école et savoir redéfinir l'école. Qu'est-ce que nous voulons dans notre société? Si réellement nous voulons le développement de la société, il nous faut une école de développement. Et une école de développement doit être réfléchie, ne doit pas être improvisée. Il faut nécessairement qu'on réfléchisse sur l'école et qu'est-ce que nous devons faire pour l'école congolaise.
Merci, professeur Yahoui Dima, expert en éducation. À la prochaine.
Merci.